Alors, aujourd'hui, on va clôturer, enfin, le personnage de David. Donc, je suis désolée, je vais aller un petit peu vite sur certains passages. Je ne vais pas faire une étude très serrée, parce qu'il y a encore beaucoup de textes, hein, à la fois dans Samuel, dans les Rois et dans les Chroniques. Donc, ça fait beaucoup de textes. Je ne vais pas tout lire. Je vais essayer de sélectionner au mieux. Peut-être que quelqu'un aura à cœur, un jour ou l'autre, de reprendre un de ces textes que je ne peux pas prendre dans le détail. On verra ça plus tard. Mais on va encore regarder, c'est le titre, c'est la fin du règne de David. Donc, les fins ne sont pas toujours très drôles. Et c'est important qu'on le regarde parce que la dernière fois, disons la semaine dernière, j'ai travaillé plutôt sur la souffrance de David face aux attaques, certaines injustes. Et d'autres plus justes parce qu'elles étaient l'accomplissement des prophéties suite à sa désobéissance à Dieu. Donc on a vu ça la semaine dernière, c'était pas drôle, ni les attaques à cause de sa désobéissance, ni les attaques qui étaient injustes. Dans les deux cas, c'est pas drôle. Et je voudrais pas vous assombrir, et surtout si en ce moment vous avez des soucis au travail ou dans la famille ou ailleurs. Je veux pas en rajouter. Et j'ai prié le Seigneur, je dis Seigneur, j'ai peut-être été un petit peu trop. Dans la tristesse et dans les problèmes. Et aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va voir la présence et l'action de Dieu en la faveur de David, malgré ses fautes. Il a continué à l'appeler un homme selon le cœur de Dieu. Et au milieu des épreuves douloureuses qu'il a subies. Et donc, on va plutôt maintenant regarder, si vous voulez, vulgairement, le verre à moitié plein. Si la semaine dernière, on a regardé le verre à moitié vide. Hein. Voilà, parce que je pense qu'il faut rétablir ça. Comme disait très justement Alexis, souvent, le problème est Dieu. Et il faut inverser le Dieu et puis le problème après. Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder l'action de Dieu et la présence de Dieu. Alors, la semaine dernière, on a vu David pleurer, chassé de sa capitale Jérusalem, écrasé par une succession de mauvaises nouvelles. Alors là, c'était frappant, hein, c'était comme des vagues. Une mauvaise nouvelle, puis une autre, puis une autre, puis une autre. D'abandon et de trahison. Voilà, il a eu vraiment la totale des catastrophes. Et jusqu'à être ciblé pour être tué par son propre conseiller, Achitophel, et avec l'accord de son fils. On peut guère faire mieux hein, comme catastrophe. Et donc c'était quand même très dur, plus les accusations de Chiméi, on a vu la semaine dernière, et la Bible dit que bon, ils sont arrivés épuisés, on comprend qu'ils soient épuisés après ça, hein, c'est clair, et à tel point qu'il n'était pas sûr que Dieu soit encore avec lui. Et je pense que si vous traversez des difficultés, parfois on se dit, mais est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce qu'il m'a abandonné? Si c'est notre faute ou même si c'est pas notre faute. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Et David va dire, si j'obtiens la faveur de l'Éternel, il me ramènera. Mais s'il dit, je ne prends pas plaisir en toi, qu'il me fasse ce qui lui plaira. Donc c'est 2 Samuel 15, 26. Il ne sait plus très bien. Alors avec Chiméi, il va dire, s'il maudit, c'est que le Seigneur lui a dit, maudit David. Qui donc peut lui dire, pourquoi agirais-tu ainsi? Ben voilà, après tout, si c'est Dieu qui veut me punir, ben j'accepte la punition de Dieu. Il ne sait plus trop, mais il se soumet à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe chez lui. Il est conscient de ses fautes, mais il ne veut pas se défendre. Évidemment, ça m'a fait penser à Jésus, puisqu'on dit souvent que David est un type de Jésus. Hein. Il annonçait déjà celui qui lui succéderait pour l'éternité, Jésus, fils de David. Et Jésus, devant les pharisiens, il n'a pas répondu. Mais lui, ce sont nos fautes qu'il a portées. Ce n'était pas ses fautes à lui. David a dû porter les siennes. Alors pendant ce temps, Absalom avait levé une armée, donc on va remettre le contexte, pour conquérir Jérusalem. Et il a réussi, puisqu'il n'y a pas eu de résistance. C'est ce que justement David voulait éviter. Il voulait éviter un bain de sang pour sa ville, et c'est très bien de sa part. Parce qu'en général, les rois se battaient, et il y avait le siège de la ville, les gens étaient massacrés. Il voulait absolument éviter ça. Et puis pendant ce temps-là, Absalom fait la fête sur le toit du palais avec les concubines de son père, coutume de l'époque. Hélas, la prophétie de Nathan, là, se trouve totalement accomplie. C'est pour ça, je pense que David, je m'étais longtemps posé la question, mais pourquoi David ne réagit pas? Il y avait un peu la prophétie de Nathan, qui avait dit que ça se passerait comme ça. Alors, David et ses troupes vont passer le Jourdain, donc ils vont aller à l'est, Et David va s'arrêter à Mahanaïm. Alors ça, c'est, j'ai regardé, hein, ça me rappelait quelque chose, Mahanaïm. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, c'était Jacob qui s'était retrouvé avant de rencontrer Ésaü à Mahanaïm. Il avait vu des anges qui étaient là et il avait appelé cet endroit le camp de Dieu. Bon, je ne sais pas si David y a pensé, mais probablement. La Bible ne le dit pas. David est toujours un aussi bon chef militaire. Il organise ses troupes, un tiers avec Joab, son général d'armée, hein, un tiers avec le frère de Joab, alors ça c'est ses neveux, et un tiers sous le commandement de son ami Ittai. Et David donne cet ordre avant la bataille, doucement, avec le jeune Absalom. Alors, c'est merveilleux le cœur de David, je trouve. Il a été certainement trop faible avec ses enfants, ça on n'en doute pas. Mais ce cœur de dire, allez, doucement, lui faites pas de mal, alors que Absalom était décidé à le tuer. Et ça, c'est... À une époque où on faisait la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est formidable. Ce cœur qu'il avait, bon ok, il faut l'arrêter, il faut l'empêcher de nuire, mais doucement, avec le jeune Absalom. Quel cœur il avait. Trop peut-être pour son fils. Ça, je laisse ça à votre appréciation. Ces hommes refusent qu'ils se battent, et là ils sont fermes, non, tu n'iras pas avec nous. Si on tue le roi, où est-ce qu'on va? Enfin bon. Et David leur obéit. Il est vraiment dans l'humilité, et à la fois parce qu'il sait qu'il y a des conséquences de son péché, il accepte même les calomnies, et tant pis, il reste à la porte de la ville et il attend. Et ces hommes vont se battre. Les troupes d'Absalom vont être battues. Et Absalom va être coincé dans un arbre par ses cheveux. Ses cheveux qui faisaient sa gloire et sa réputation. Et il va être enterré par l'armée. Et là, David est inconsolable. Alors c'est terrible. Pourtant, en lisant attentivement le texte, que je vous ai rapidement résumé, là, ça, il y a plusieurs chapitres, de 2 Samuel 15-12 à 2 Samuel 19, on voit à quel point Dieu est présent malgré ça. Parce que c'est quand même une triste histoire, hein. Mais on voit à quel point Dieu est présent et comment de différentes manières il va agir en faveur de David. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. La semaine dernière, on a vu tout ce qui était triste, épouvantable. Aujourd'hui, on va voir que Dieu était là. Et Dieu est là. Le message, c'est ça ce matin. Dieu est là dans nos difficultés, Dieu est là dans nos souffrances. Quelles que soient les bêtises qu'on a pu faire, quelles que soient les erreurs qu'on a pu commettre, Dieu est là. On est ses enfants. On a accepté Jésus comme notre sauveur. Il a porté nos péchés à la croix. Et... chaque fois qu'on se repent, qu'on lui demande pardon, Seigneur, j'ai encore gaffé, Seigneur, j'ai encore... Il nous écoute et il nous pardonne. Et David, Dieu était encore avec lui, même s'il en doutait. Alors, on va voir. Premièrement, tout au début de l'histoire, David est prévenu à temps de la conspiration. Il aurait pu... apparemment, hein, j'avais posé la question la semaine dernière, comment ça se fait que personne ne lui a rien dit? Il est prévenu tout à la fin. Quelqu'un vient lui dire... ça y est, Absalom arrive avec ses hommes. Et lui et ses hommes, donc la garde royale, les 600 soldats de Ittai, etc., auront le temps de fuir pour éviter que la ville subisse un massacre, un siège. Vous savez, dans ce temps-là, on ne faisait pas de quartier, on faisait le siège de la ville, on détruisait les murailles, on tuait tout ce qui résistait, voilà, on pillait, etc. Et donc, il évite que la ville de Jérusalem soit assiégée et que ses habitants soient massacrés. Et là... franchement, on voit que Dieu pose des limites à l'action de l'ennemi. L'ennemi peut vous en vouloir pour toutes sortes de raisons, mais Dieu pose des limites. Je cite souvent ce verset qui dit qu'il a mis des limites à la mer. Mais je crois qu'il a mis aussi des limites à ce que l'ennemi peut nous faire. Que ce soit un châtiment, que ce soit simplement une attaque gratuite, dans tous les cas, Dieu met des limites. Parce que c'est lui qui est en contrôle. Ensuite, deuxièmement, beaucoup de ces hommes lui restent fidèles, parce que la dernière fois, j'ai parlé de tous ceux qui ont trahi, tous ceux qui l'ont lâché, tous ceux qui l'ont calomnié, etc., tous ceux qui lui ont rappelé que voilà, Dieu n'était pas d'accord avec ce qu'il avait fait. Là, cette fois-ci, on va regarder, beaucoup de ces hommes lui restent fidèles et ils vont l'accompagner dans sa fuite, même quand il leur dit « mais non, retournez chez vous ». Non, non. Sa garde personnelle, bien sûr, hein. Mais aussi Ittai, et ça m'a touchée, parce que vous savez, dans ces cas-là, je cherche dans les dictionnaires bibliques. N'ayez crainte, je n'ai pas la science infuse, je ne devine pas tout, je cherche. Et j'ai vu que Ittai était un philistin, ennemi traditionnel d'Israël, de Gath. Il décide de rester avec David à ses côtés pour le suivre. Et visiblement, il a adopté aussi le Dieu de David, avec 600 hommes de guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez que David avait vécu en Philistie. Il avait vécu au milieu des Philistins. Et il semblerait qu'il y a des Philistins qui se sont attachés à lui et qui ont adopté sa foi dans le Seigneur. Parce que ce fameux Philistin, Ittai, il répond à David, « Par la vie du Seigneur !» C'est une formule de serment, mais elle avait de la valeur. « Et par ta vie, ô roi mon Seigneur, au lieu où tu seras, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi je serai, moi, ton serviteur. » Alors évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup, ça vous rappelle quelque chose. Qu'est-ce qui a dit ça? Ruth à Naomi, exactement. Et il a cette fidélité, et je pense que c'est pas à cause de, bon, David c'est le roi le plus beau, le plus fort, il a adopté le Dieu de David. Et il l'a accompagné dans ses difficultés jusque-là, et il reste fidèle. Donc, fidèle avec 600 hommes, c'est pas mal, hein. David n'est pas tout seul. On avait l'impression la semaine dernière que tout allait mal, mais non, David avait des hommes fidèles. Et moi ça me touche que quelqu'un qui n'était pas né juif soit attaché comme ça à David et le suive pour le protéger. Visiblement, il connaissait le Dieu de David. Ensuite, il y a les sacrificateurs, Tsadok, ce fameux Tsadok, hein, et Abiathar, avec leur fils, et les Lévites, c'est-à-dire tous les prêtres. Ils sont prêts à le suivre, même avec l'arche, parce qu'ils savent que c'est Dieu qui avait appelé David, malgré ses fautes et ses faiblesses. Ils vont le suivre. Et là, c'est David qui est obligé de dire, goûtez, rangez l'arche, remettez-la en sécurité, on n'est pas... C'est pas ça qui va changer grand-chose. C'est ma relation avec Dieu. Hein. Il le dit autrement, mais c'est ça. Et donc, ils vont ranger l'arche, mais ses fils, vous allez voir, leurs fils, Ahimaaz et Jonathan, acceptent de passer des messages à David au risque de leur vie. C'est-à-dire qu'ils restent dans la ville et ils tiennent David au courant de ce qui se passe pour lui dire à quel moment il faut fuir, à quel moment, où est-ce qu'il faut aller pour protéger sa vie. Donc, ils risquent leur vie en faisant ça. Vous savez, les espions, on ne leur faisait pas de cadeaux. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, peut-être pas non plus. Hein. Et donc, au risque de leur vie, ils vont informer David. Alors après, il y a Hushaï, deuxième conseiller de David. Il y avait le premier, c'était Ahitophel, et le deuxième, c'était Hushaï. Et lui aussi, il va rester fidèle à tel point qu'il va faire échouer le conseil d'Ahitophel. Et le conseil d'Ahitophel, c'était le bon conseil. C'est lui qui aurait assuré le meurtre de David. Il avait expliqué à Absalom, tu fais comme ci, comme ça, je ne rentre pas dans les détails, je pourrais les relire, et puis moi, j'irai le tuer. Ça, c'était le conseil d'Achitophel. Et puis Hushaï est passé derrière. Il a dit, non, il faut rassembler une grande armée, et toi, Absalom, tu vas être à la tête de cette armée. Et comme ça, on va gagner la bataille. Et tout le monde a été fasciné par les conseils de Hushaï, qui n'étaient pas bons du tout. Pour eux. Et tout le monde a laissé tomber les conseils d'Achitophel qui avait trahi David. Et malheureusement, Ahitophel a fini par se suicider. Ça fait penser à Judas. Hein. Vous savez que souvent, il y a des comparaisons qu'on fait entre David et Jésus. Et c'en est une. Ahitophel qui a été fidèle pendant des années. Je pense qu'il avait des raisons. On suppose, comme c'était le grand-père de Bathsheba, on suppose qu'il y a eu une rancune très forte. Et il a fini par se suicider parce qu'on n'avait pas pris son conseil. Parce qu'en général, ses conseils étaient très très bons. Et celui-là aussi était bon. Alors Tsiba, c'en est un autre qui a soutenu David. Alors franchement, il n'est pas clair, lui. Hein. Vous savez, parfois, Dieu... Je pense aux démarches administratives. On a tous, un moment ou à l'autre, des démarches administratives. Et parfois, Dieu permet que ce soit des gens pas très clairs qui vont résoudre nos dossiers. Vous avez tous des exemples, j'en suis sûre. Des gens à qui on ne ferait pas forcément très confiance, etc. Et puis Dieu va s'en servir pour débloquer une situation. Bizarre, ça arrive. Ce n'est pas la règle, mais ça arrive. Et c'est un peu le cas là avec Tsiba. Tsiba, il n'est pas clair parce que la plupart des commentateurs bibliques pensent qu'il a trahi Méphibosheth. Il est venu dire à David, Méphibosheth, il est resté là-bas parce qu'il te reproche d'avoir pris la place de Saül, blablabla. David, il n'était pas en état de réfléchir. Donc, il l'a cru, il lui a dit, écoute, je te donnerai toutes les propriétés de Méphibosheth. Bon, voilà. Mais en attendant... Tsiba a ravitaillé les troupes de David, qui comme ça ont pu reprendre des forces. Et ça me fait penser que dans des moments comme ça, Dieu pourvoit. Parce qu'il voit dans quel état on est. Il voit dans quel état on est. Alors, que ce soit le résultat d'une faute ou que ce soit une attaque gratuite, je le répète, Dieu est là et il pourvoit. et ne nous laisse pas sombrer au fond du puits. Hein? Dieu pourvoit et ils vont reprendre des forces avec tout ce que Tsiba a apporté. Alors, si ça vous amuse, regardez la liste, c'est vraiment rigolo, de tout ce qu'il a apporté à manger, à boire, etc., pour toutes les troupes. Il fallait le faire, ça a dû lui coûter. Après, il y a une lueur d'espoir dans les paroles de David, sous les malédictions de Shimei, 2 Samuel 16-12. Peut-être, j'aime bien cette phrase, peut-être le Seigneur regardera-t-il ma peine. Il n'en est pas sûr, il dit peut-être. Peut-être le Seigneur me fera-t-il du bien à la place de la malédiction qu'il prononce en ce jour, que Shimei prononce en ce jour. Ah oui, ça fait penser à Joseph, hein, où Dieu a changé le mal en bien. Ses frères l'ont vendu, etc. Il a été accusé à tort, etc. Et puis, bah, pendant ce temps-là, Dieu l'a préparé. De ce petit jeune homme de 17 ans, vantard comme pas deux, tu as fait un grand homme d'État, un grand homme de Dieu. Dieu a travaillé son cœur. Et il a changé le mal en bien. Et quand ses frères reviennent vers lui, c'est ce qu'il leur dit, mais vous inquiétez pas les frères. Tout le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. Et Dieu change le mal en bien. Ça, c'est clair. Et peut-être le Seigneur regardera-t-il ma peine. Il y a quand même une lueur d'espoir dans le cœur de David. Il n'est pas complètement au fond du trou. Peut-être le Seigneur regardera-t-il ma peine. Alors Hushaï ensuite. Alors Hushaï encore, il va réussir à convaincre Absalom, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et franchement, c'était incroyable parce que les paroles d'Ahitophel étaient très respectées. Et la raison est là, c'est 2 Samuel 17-14, l'Éternel avait résolu de faire échec au bon conseil d'Ahitophel. Parce que sans ça, il n'aurait pas réussi Hushaï. Hushaï, ce n'était pas un rhétoricien. Hein. Je pense que son conseil, bon, il a flatté Absalom et ça a marché, mais bon. Mais la raison, elle est là, l'Éternel avait résolu de faire échec au bon conseil d'Ahitophel. Et Dieu est là. Et ça, dans notre vie à tous, on a vu comment parfois Dieu changeait des situations parce que Dieu avait résolu. Pas à cause de nos mérites, pas à cause de que les autres sont des vilains méchants, pas à cause, non, Dieu avait résolu. Et c'est là-dessus qu'on se confie, ce que Dieu a résolu. Alors, on n'a pas fini la liste des bénédictions. Il y a quelqu'un qui voit les fils des sacrificateurs qui font les espions là. Ils vont les poursuivre, mais Dieu permet qu'une femme courageuse les cache. Ça vous rappelle quelque chose, j'imagine ? Vous vous souvenez, Rahab ? Voilà. On va retrouver la même situation. Dieu lève des femmes. Alors, à cette époque-là, hein, les femmes n'étaient pas... Mais Dieu se sert des femmes. Lui, il n'est pas sexiste. Dieu se sert des femmes. Il va se servir de cette femme pour protéger les espions. Efficacement. Bon, elle est courageuse, hein, parce que franchement, si ça avait été découvert, il ne lui aurait pas fait de cadeau, croyez-moi. Ensuite, arrivé à Mahanaïm, David et ses troupes sont ravitaillés par 3 hommes. Alors là aussi, ça m'a bluffé, parce que parmi ces 3 hommes, il y a un Ammonite. Non mais, les Ammonites et les Israélites, c'était la guerre sans merci. Et c'est un Ammonite. Pourquoi ? Parce qu'il aimait David. Et il souffrait de le voir fuir comme ça. Et il est arrivé avec... Alors là, la liste est encore pire que l'autre. Elle est incroyable. Hein. Entre à manger, à boire, des lits... Enfin, c'est... Amusez-vous à lire la liste de ce qu'ils ont apporté. C'est extraordinaire. Et voilà, Dieu avait levé des gens pour pourvoir aux besoins. Alors, il y a une petite phrase qui m'a vraiment touchée. Ces 3 hommes, donc il y avait un homme très riche, il y avait cet Ammonite, et puis un autre homme riche, qui ont ravitaillé toute la troupe. Et ce verset me touche. Il s'était dit, ces 3 hommes, ces hommes ont dû souffrir de la faim et de l'épuisement et de la soif dans le désert. Ah, vous savez ce que ça me dit, ça ? C'est que Dieu connaît par quoi on passe. Il sait. Et il a parlé au cœur de ces gens. Et je pense que quelque part, ah ça c'est mon imagination, vous en faites ce que vous voulez, mais quelque part Dieu leur a mis à cœur. Non mais dis donc, vous vous rendez compte ce qu'ils ont dû souffrir ces gens ? Ils ont faim, ils sont épuisés, ils ont soif dans le désert. Pourquoi vous n'iriez pas aller les aider ? C'est un peu ça. Dieu voit ce qu'on vit. Dieu voit ce qu'on vit. Et encore une fois, même si c'est notre faute ou si ce n'est pas notre faute, Dieu voit et il est là. On est toujours un petit peu, vous savez, c'est naturel à l'homme d'être axé sur les mérites. Seigneur, j'ai toujours été fidèle à toi. Seigneur, je... Seigneur, il nous prend comme on est. Si on a fait des bêtises, il nous corrige. Si on demande pardon, il nous pardonne et il prend soin de nous. Ça, c'est important de toujours s'en rappeler. Et donc, il prend soin de ces hommes en disant, ils ont dû souffrir et ces trois hommes vont aller bénir David dans le désert. Dieu sait de quoi on a besoin quand on est dans l'épreuve. Et ça, c'est même un ammonite, enfin moi je rêve quand on voit la guerre entre Israël et les ammonites. Même un ammonite. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et je me souviens, je l'ai vécu ça dans un moment très difficile. Je n'ai pas compris sur le coup, mais c'est après que je me suis rendu compte. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la mairie, j'étais première adjointe. Tout le monde était gentil avec moi. Tout le monde proposait de m'aider. Et je me souviens d'un conseiller qui était très compétent qui m'a dit « Mme Hubert, si vous voulez, je vais faire cette tâche que vous avez là. Est-ce que ça vous gêne ?»« Oh non, pas du tout. Je n'étais pas très capable de faire grand-chose à cette époque-là. » Et franchement, Dieu a permis qu'il y ait des tas de gens qui soient d'une gentillesse avec moi. Ils ne savaient rien. Ah, parfois même, je me souviens que je faisais la culture biblique à l'école Notre-Dame et la responsable m'appelle dans son bureau. Elle me dit, dis donc, toi, ça ne va pas. Je dis, bon, ça se voit. Et elle me dit, je vais prier pour toi. Une catholique. Et elle a prié une prière terriblement prophétique à tel point que je me suis dit, mais elle est au courant. Qui lui a dit ce que je traversais? Non, c'était ça. Dieu voit. Il voit dans quel état on est. Et il n'est pas là pour nous taper dessus, si c'est de notre faute. Il n'est pas là pour nous dire, ah, c'est injuste, mon pauvre, si ce n'est pas notre faute. Dans tous les cas, il prend soin de nous. Hein? Sortons de la notion de mérite. Il est là pour soin. C'est un Dieu de grâce. On ne mérite rien, même quand on est presque parfait. Comme moi. Non, je plaisante. C'était une vieille plaisanterie avec Claire Stéphane. Et voilà. Dieu prend soin de nous. Et je me souviens que cette prière, ça a été une des plus précieuses de ma vie. Parce que j'ai réalisé d'un seul coup qu'elle ne pouvait pas avoir trouvé ça toute seule et qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui avait pu lui parler. Ah, Dieu se sert des gens qu'il a sous la main. Et il peut se servir même d'un âne avec Balaam, hein, rappelez-vous. Et dans ces cas-là, on aimerait bien être un âne parce que c'est sympa que Dieu puisse se servir de nous. Enfin, trêve de plaisanterie, Dieu donne la victoire et il utilise pour ça... Maintenant, autre chose, la forêt. Ça aussi, ça m'a choquée. Il y a ce verset qui dit, 18:8, hein, on est toujours dans 2 Samuel, « La forêt dévora plus de gens que l'épée en ce jour-là. » La forêt. Il va se servir de la forêt. Il permet que le combat ait lieu dans la forêt. Et alors, si j'ai bien compris, je me suis renseignée, mais vous pourrez peut-être regarder ce que j'ai compris, d'après certains commentaires, c'est que la forêt avait des zones marécageuses, et qu'elle était assez dangereuse, il y avait des zones abruptes, il y avait des rochers, et pour faire avancer une armée, c'était très problématique, et soit ils se sont découragés, soit ils sont tombés dans des ravins, soit ils sont tombés dans des marécages, bref, ils n'ont pas pu vraiment combattre. Et la forêt a dévoré plus de gens que l'épée en ce jour-là. Et puis, Dieu va se servir de qui pour piéger Absalom? Eh bien, pas d'un homme, d'un chêne, d'un arbre. Un arbre. Dieu se sert de ce qu'il a sous la main. Et parfois, il nous surprend. Il se sert de gens qu'on ne croirait jamais. Il se sert de choses où on ne s'y attend pas. Quand Dieu est en contrôle, et il est toujours en contrôle. Il est présent, il agit. Alors après, Dieu va parler au cœur des tribus d'Israël. Alors là, c'est plus compliqué, hein, parce que les tribus du Nord avaient toujours un peu de recul par rapport au roi qui appartenait à la tribu de Juda. Donc ça créait des jalousies. Et puis Saül, c'était Benjamin. Donc, il y avait des petits frottements et parfois des grands frottements. Ah, l'humain est ce qu'il est. Les gens d'Israël, bah Dieu va réussir à leur passer un message dans le cœur. Parce que Dieu est en contrôle. Il va leur faire dire, mais on a fait du mal à David, il faut le faire revenir. Ah. Ils avaient suivi Absalom, puis ils se rendent compte quand même que c'était, oh non, 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 là on n'a pas obéi à Dieu. Ah. Dieu est en contrôle. Et vous savez, dans les moments difficiles, je me souviens que maman avait une... Vous savez, les mamans, elles sont énervantes. Je ne sais pas les plus jeunes, là, ce que vous pensez, mais parfois, elles sont très énervantes, les mamans chrétiennes. Parce qu'elles trouvent juste le truc qu'on n'aimerait pas entendre. Et quand on était dans le souci, ma sœur et moi, Maman nous regardait avec son petit air coquin et nous disait « Compte les bienfaits de Dieu ». Puis elle nous chantait ça. Oh là 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 là. Parce que ah, c'est facile, hein. C'était un examen, c'était bon, toutes sortes de difficultés. Compte les bienfaits de Dieu. Vous savez, quand on est jeune, on n'a pas envie de compter les bienfaits de Dieu la veille d'un examen qu'on n'a pas bien révisé ou pas assez ou je ne sais pas. Hein? Allez, maman chrétienne. Hein? Et puis bah, maintenant, avec les années, c'est toujours pareil hein, quand on vieillit. Oui, dans les difficultés, compter les bienfaits de Dieu. Ne pas se focaliser sur tout ce qui ne va pas, mais sur la grandeur de Dieu. Et d'ailleurs, les chants étaient très bien choisis ce matin, encore une fois. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Se focaliser sur lui. Malheureusement, notre David, décidément, il nous fatigue en ce moment. Il tombe dans le piège. Il va pleurer la mort de son fils en oubliant tout ce que Dieu, tout ce que je viens de citer là, ouais, une douzaine de choses. Il oublie tout ça et il pleure la mort de son fils. Il oublie tout ce que Dieu a fait pour lui. Il oublie tout ce que l'armée a fait à risquer sa vie, enfin quand même, pour lui. Tout ce que ses amis ont fait, toutes les précautions qu'ils ont prises pour le protéger. Il oublie tout ça et il va pleurer son fils. Et là, Joab va le secouer. Alors là, je vous avouerai que je n'ai pas énormément de sympathie pour Joab parce qu'il tue facilement ses ennemis. Quand on voit David à côté, ça gêne quand même. Hein. 2 Samuel 19, versets 6 à 9. Ah, notre David, là, il ne compte pas les bienfaits de Dieu. Hein. Il regarde le problème. Mon fils est mort, ils ont tué mon fils. Versets 6 à 9. Alors, 19, 6 à 9, on est toujours dans 2 Samuel. Mon fils, Absalom, Absalom, mon fils, Joab entra chez le roi. Et dit, tu fais honte aujourd'hui à tous tes hommes, à tous ceux qui aujourd'hui t'ont sauvé la vie, à toi, à tes fils, à tes filles, à tes femmes et à tes concubines. Coutume. Tu aimes ceux qui te détestent et tu détestes ceux qui t'aiment. Tu montres aujourd'hui que tes chefs et tes hommes ne sont rien pour toi. Aujourd'hui, je le sais, si Absalom était vivant et si on était tous morts aujourd'hui, eh bien ça te conviendrait. Maintenant, sors et parle au cœur de tes hommes. Si tu ne sors pas, je te jure par le Seigneur, il ne restera pas un seul homme avec toi ce soir. Et ce sera pire pour toi que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Alors le roi, heureusement qu'il était quand même soumis et docile, alors le roi alla s'asseoir à la porte de la ville et on fit dire à tout le peuple, le roi est assis à la porte de la ville et tout le peuple vint devant le roi. Ouh, de justesse, grâce à notre Joab, Joab l'a secoué parce qu'il s'est focalisé sur sa souffrance. Il s'est focalisé, il espérait bien que son fils resterait en vie. Bon alors, on constate dans la vie de David qui a toujours eu une partialité énorme envers ses enfants. Et on va voir tout à l'heure, il était même capable de ne rien dire quand il faisait des bêtises. Donc il n'a pas assumé ce rôle d'éducation avec ses enfants. Et voilà, ça a été un de ses défauts. Et la Bible le rapporte, et c'est pour ça que je pense que la Bible est un livre authentique. Parce que quand on a un héros comme David et que Jésus s'appelle fils de David, on n'a pas envie de dire du mal de lui. Vous savez, c'est... Moi, j'ai rien contre la reine d'Angleterre, je l'apprécie, j'apprécie sa foi surtout. Mais quand j'ai entendu tous les compliments qu'on a fait sur elle, moi j'avais des tas de pêches à éplucher, donc j'ai passé des heures assises à écouter. Et parfois je me disais, mais misère, qu'est-ce qu'on peut dire comme bien sur elle? Et je me souviens de 97, je crois, quand Diana est morte, ce qu'on a dit sur la reine. Ah. Mais elle est morte, donc maintenant elle n'a plus que des qualités. Et David est mort, et la Bible, quand elle a été rédigée, David était mort. Donc, ils auraient pu voir que les qualités. Mais non, il nous montre aussi ses défauts. Et c'est important parce que le message de Dieu, là, vous savez, dans la Bible, il y a toujours un message derrière les événements. Le message, c'est même les meilleurs hommes, même un homme selon le cœur de Dieu, il a fait des fautes, il avait des faiblesses, mais Dieu l'aimait quand même. Et Dieu était avec lui quand même. Oh, bien sûr, de temps en temps, Dieu lui collait une bonne fessée, mais Dieu était avec lui. Parce qu'il savait dire pardon. Et je crois que ça, c'est important. Mais, contrairement à Saül, pourquoi Dieu a laissé tomber Saül? Parce que Saül, il ne voulait jamais reconnaître. C'était toujours les autres. Hein, rappelez-vous, on a fait Saül, hein, il y a 2-3 ans. Hein, c'était toujours, mais c'est le peuple, et puis le prophète, il était en retard. Et puis voilà. David, dès qu'on lui disait, Seigneur, j'ai péché. Voilà, c'était pas compliqué. Et... Mais David va encore subir une révolte. Bon, là, ça s'arrange, hein. Mais ça va quand même devenir problématique parce qu'il y a un petit malin qui s'appelle Sheba et que la Bible qualifie de vaurien. Alors, dans l'hébreu, c'est fils de Bélial. Alors, il y a 36 traductions, hein, mais bon, souvent les traductions prennent le mot vaurien. Un vaurien qui va entraîner les tribus du Nord. Il y a des gens qui ont des dons naturels pour diviser le peuple d'Israël. Et ça, on va voir ça tout au cours de l'histoire du peuple d'Israël. Diviser les tribus du Sud, Benjamin et Juda, avec les tribus du Nord. Et c'est une révolte qui commence à prendre des proportions et qui va vraiment... qui était dangereuse, quoi. Le peuple courait à sa perte. Et ça voulait dire siège des villes, massacre, enfin, entre frères. Et c'est une femme. C'est une femme qui va éviter le massacre. Là encore, bénédiction de Dieu. Il va lever une femme. À cette époque, bon, c'était assez miraculeux. Je sais qu'on a eu Esther, Déborah, etc. Mais, enfin, Esther, c'est plus tard. Et Déborah, c'était avant. Elle va éviter le siège de sa ville qui s'appelait Abel-Beth-Maaca. Joab est tellement en colère, il sait que Sheba s'est réfugié dans cette ville et il va saper la muraille. Alors vous savez, la technique, c'était de gratter avec toutes sortes d'engins le pied de la muraille pour qu'elle s'écroule plus facilement. Et puis après, c'était le massacre de la ville. Cette femme, elle se dit non, là, c'est pas possible. Elle a un esprit de sagesse. Et curieusement, cette ville était réputée pour son esprit de sagesse. C'est curieux, hein. Est-ce que Dieu distribue comme ça? On ne sait pas, mais en tout cas là, cette ville était réputée pour sa sagesse. Parce que dans le pays d'Israël, il y avait une coutume qui disait, dans les quatre conflits, on va consulter Abel. Abel, ce n'était pas Abel, celui qui a été tué par Caïn, mais c'était cette ville Abel-Beth-Maaca. Et cette femme avait un esprit de sagesse et elle a crié du haut de la muraille pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On ne va pas se battre entre frères. Mais... Et puis finalement, Joab accepte de lui répondre, ce qui était quand même bien de sa part. Et il lui dit, mais écoute, vous avez là parmi vous quelqu'un qui a initié une révolte, il s'appelle Sheba, et on vient, voilà, on attaque la ville, il s'est réfugié chez vous, vous le gardez, et dire, bah, s'il n'y a que ça, on va vous le donner. Et c'est ce qui s'est passé, et comme ça, la ville a été protégée. Protégée, et on a évité un massacre, on a évité à cause de la sagesse d'une femme. Et après, on va dire que la Bible est misogyne. Ah, ils ne l'ont pas lu, hein, ceux qui disent ça. La sagesse d'une femme. On ne sait pas grand-chose sur elle, si ce n'est qu'elle a vraiment fait la volonté de Dieu, que Dieu s'en est servi pour remettre la paix. Alors, avant de passer à l'onction de Salomon comme roi sur Israël, à la suite d'une nouvelle conspiration, vous voyez la révolte de Sheba, après Absalom, il y a eu la révolte de Sheba, et puis une nouvelle conspiration, et imaginez que c'est le petit frère d'Absalom maintenant qui s'y met. Pauvre David, là c'est chaud quand même. Et pourtant, qui l'avait nommé roi? C'était Dieu. Et souvent, moi, quand j'étais petite, c'était, je vous l'ai déjà dit, mais ça m'énerve, de penser que ce petit berger qui était bien tranquille avec ses moutons, moi qui aime tant la nature, Dieu l'a mis dans une situation où il a dû sans arrêt subir les attaques injustifiées pour la majorité d'entre elles. Justifiées, évidemment, après son péché, mais quand même, c'est chaud, hein. Et là, Dieu le délivre. Pour Absalom, Dieu est là, Dieu bénit, et pouf, c'est Sheba. Il y a une femme sage qui évite le massacre et pouf, c'est le petit frère d'Absalom qui remet ça. En fait, j'ai réalisé hier soir tard, en fait, je dis mais en fait, l'erreur, elle était chez David. Il aurait dû nommer son successeur. Dieu lui avait dit que ça devait être Salomon. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Je suppose que ça les gênait. Ça le gênait parce qu'il y avait les grands frères. Et quelque part... ils avaient priorité. Et Salomon était le fils d'une faute. Donc, Dieu lui avait dit, c'est Salomon qui doit succéder. Mais, moi j'imagine la grimace de David. Hein, Seigneur, pas maintenant, je ferai ça plus tard. Mais résultat, il y avait un vide. Et vous savez que la nature humaine, c'est de remplir, la nature d'ailleurs, c'est de remplir le vide. Et le petit frère d'Absalom s'est dit, bon... Allez, moi, il faut bien qu'il y ait un roi. David, il est vieux, il ne peut plus faire grand-chose. Aïe, aïe, aïe. On va lire 2 Samuel 24. Alors, c'est une histoire un peu bizarre au premier abord, mais qui va permettre à David de trouver le lieu où son fils pourra construire le temple. Donc ça, c'est Alors, cette histoire, on ne sait pas chronologiquement où elle est dans la Bible. Chronologiquement. Hein. Mais je pense que c'est important de la citer ici à cause du temple. Je vais vous expliquer. 2 Samuel 24, 7 à 25. 24, 7 à 25. Voilà. Et l'été, oui, il est là, je crois. 7 à 25, voilà. Le roi a eu l'idée. Alors, on pense que c'était une période où le pays était extrêmement prospère. Est-ce que c'était entre la victoire sur Absalom et... En tout cas, c'était à la fin. Tout le monde est d'accord, ça doit être à la fin de son règne, mais à un moment où tout allait bien, où il y avait la paix. Et puis, il vient à l'idée de David de faire le dénombrement. Il fait recenser le peuple. Alors, rien à voir, nous, quand on pense recensement, on pense aux petites dames qui viennent nous apporter les papiers, et puis voilà, pour savoir, en général, c'est aussi dans les communes, hein, c'est là-dessus que sont basées nos subventions, donc on y tient au recensement, on se dit, oh, au prochain recensement, si on a un peu plus de monde, on aura plus de subventions, voilà, je vous dis tout. Mais voilà, nous, on pense à ça. Donc on n'est pas du tout dans l'optique des recensements de l'époque. À l'époque, quand on cherchait à savoir combien on avait de gens, ce n'était pas les femmes et les enfants, c'était les hommes en état de porter les armes. Et c'était une façon de connaître sa puissance militaire. Et donc, l'orgueil des dirigeants. Voilà. Et donc, voilà ce que le roi dit à Joab, « Parcours les tribus d'Israël, je te prie. » depuis Dan, donc le nord au sud, et recenser le peuple. Ainsi, j'en connaîtrai le nombre. Et Joab, immédiatement, là aussi, je le trouve sensé, il va dire au roi que le Seigneur, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que tes yeux, mon Seigneur, le voient. Oui, parce qu'il commence à être vieux. Hein. Mais pourquoi veux-tu faire cela? Mais la parole du roi s'imposa à Joab et au chef de l'armée, alors qu'il était encore vaillant. Joab et les chefs de l'armée sortirent donc devant le roi pour recenser le peuple d'Israël. Ils vont recenser. Et puis, une fois que le recensement est fait, on va passer au verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut compté le peuple. David dit au Seigneur, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Ce n'est pas le fait de compter, c'était pour montrer sa force militaire par rapport aux autres pays. Un pays prospère, un pays en paix, je suis grand, je suis fort, je suis le roi d'un pays très fort. Maintenant, Seigneur, pardonne, je te prie, la faute que j'ai commise, moi ton serviteur. Car j'ai agi tout à fait stupidement. Ah, Joab l'avait prévenu. Et puis, le prophète Gad va lui dire que le Seigneur te propose trois choses. Choisis-en une. Gad arriva chez David et dit, qu'est-ce qui doit t'arriver? 7 années de famine? 3 mois de fuite devant tes adversaires? Ou bien 3 jours de peste? Alors, on voit ça une seule fois dans la Bible. C'est une histoire un peu étrange. J'ai regardé un peu les commentaires, mais je ne vais pas la développer ici. Maintenant réfléchis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie, c'est-à-dire à Dieu. David répondit à Gad, je suis dans une grande détresse. Laisse-nous, je te prie, tomber aux mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas aux mains des hommes. Je le comprends. Le Seigneur fit venir la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Il mourut 70 000 hommes parmi le peuple, et comme le messager de Dieu, donc un ange, étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, il y a d'autres traductions qui disent l'ange de l'Éternel, le Seigneur regarda ce malheur, il dit au messager destructeur qui était parmi le peuple, « Cela suffit, arrête maintenant. » Le messager était près de l'aire d'Aravna, le Jébusite, et c'est ça qui est important. Quand David vit le messager qui frappait parmi le peuple, quand il vit le messager, oui David, il dit au Seigneur, « C'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai commis la faute, mais ce troupeau, qu'a-t-il fait ?» Que ta main soit sur moi et sur ma famille, je t'en prie. Et là, Gad revient voir David et lui dit, monte, élève un autel pour le Seigneur sur l'aire d'Aravna, le Jébusite. David monta, selon la parole de Gad. Donc l'aire, c'est l'endroit où on battait les grains pour enlever la paille, pour enlever l'écorce. Et on faisait ça en hauteur, là où il y avait du vent, pour que le vent chasse les déchets, si on veut, et que le grain lourd, lui, reste. Donc David monte sur cette aire de battage, on va dire, hein, et Aravna regardait d'en haut et vit le roi et les gens de sa cour qui se dirigeaient vers lui. Alors Aravna sortit et se prosterna devant le roi face contre terre. Aravna dit, pourquoi, ô roi, viens-tu chez moi? David répondit, pour t'acheter l'air afin d'y bâtir un autel pour le Seigneur, afin que le fléau qui frappe le peuple s'arrête. Et Aravna dit à David, ô roi mon Seigneur, prends-la et offre un holocauste. En holocauste, tout ce qui te plaira, regarde, les bœufs sont là. Je pense qu'ils se servaient des bœufs pour travailler, ramener les grains, etc. Et le traîneau à dépiquer, avec l'attelage, ça te servira de bois. Au roi, je te donne tout. Je pense qu'il avait peur, Aravna. Et Aravna dit au roi que le Seigneur ton Dieu te soit favorable. C'est ça l'important, que Dieu te soit favorable. Mais le roi lui dit non, 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 je l'achèterai à son prix. Je n'offrirai pas au Seigneur des holocaustes qui ne me coûtent rien. Ça, c'est un verset qu'on cite souvent. Hein. Je n'offrirai pas au Seigneur des choses qui ne me coûtent rien. David acheta l'air et les bœufs pour 50 sicles d'argent. Il bâtit un autel pour le Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix. Le Seigneur se laissa fléchir en faveur du pays. Alors, la totalité du texte, enfin, ce texte peut être complété, il doit être complété, par 2 Chroniques 21-26. Et ça, vous savez, il y a 3 récits qui se recoupent, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est un peu comme les 4 évangiles, hein. C'est Samuel, roi et chronique. Donc, 2 Chroniques 21, verset 26. David bâtit là un autel pour le Seigneur, il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix. Il invoqua le Seigneur qui lui répondit en faisant venir un feu du ciel sur l'autel de l'holocauste. Et 22, verset 1. David dit, ici sera la maison du Seigneur Dieu, ici sera l'autel pour l'Holocauste. Alors, pourquoi ? Alors là, c'est intéressant, parce que en faisant le sacrifice, David devait poser ses mains sur l'animal et il devait confesser son péché pour transférer la faute sur la victime qui va payer de sa vie, donc qui va être sacrifiée. David voulait honorer Dieu et être sûr de son pardon. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Le feu du ciel tombe sur l'autel. Alors, c'est curieux, ce n'est arrivé que 4 fois dans la Bible que Dieu réponde par le feu du ciel. Alors, pour ceux qui sont intéressés, hein, je peux vous donner les références. Lévitique 9, Juges 6, 2 Chroniques 7 et 1 Roi 18. Le dernier en date étant Élie. Vous connaissez tous bien l'histoire. 4 fois, donc c'était très important. Et David, il connaissait l'histoire. Alors, bien sûr, celle de Gédéon et d'Aaron. Il ne connaissait pas les 2 autres, mais il savait que quand le feu du ciel descendait sur l'autel, ça avait un message. Et le message, il l'a tout de suite compris, c'est là qu'on va bâtir le temple. David avait fait des préparatifs pendant des années pour bâtir le temple. Il savait que ce ne serait pas lui, il savait que ce serait son successeur. David était un homme de guerre, vous vous souvenez, on l'a dit la dernière fois, son successeur allait être un homme de paix. Le surnom de Salomon était pacificateur. Et il comprend que c'est là quand Dieu a choisi cet endroit. Et le temple va se dresser, si vous réfléchissez bien, à l'endroit où le péché de David a amené Jérusalem à 2 doigts de sa destruction. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. David s'était vraiment planté par orgueil. Il avait mis sa ville en danger à cause de son orgueil. Mais il a demandé pardon et Dieu a délivré son peuple. Et c'est avant tout, ce temple, un lieu de pardon où le péché et toutes ses conséquences pouvaient être effacées. Et ça, c'est beau. Le péché allait être effacé à cet autel. Donc, c'est important parce qu'on va en parler, évidemment, après, au niveau de la succession de David. Alors, on va passer à Roi, chapitre 1, verset 1. On revient à un roi. Comme les textes se complètent, hein, je suis désolée, on bouge un petit peu. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, donc chapitre 1, verset 1, ensuite 5 à 10. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements, mais il ne parvenait pas à se réchauffer. Alors on pense qu'il avait 70 et plus, sachant que l'espérance de vie à cette époque était de 35 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai lu. Donc 70, c'était le double. Donc c'était âgé, hein, pour l'époque. Alors, on passe, ils ont une solution qui est très païenne, on ne va pas détailler. Verset 5. Alors Adonias, fils de Haggith, donc c'est son fils, le petit frère d'Absalom, se mit à élever des prétentions. Il disait, c'est moi qui serai roi. Il se procure, alors, schéma classique, un char, des attelages et 50 gardes du corps qui allaient devant lui. C'était le message, je suis roi. Jamais sa vie durant, alors ce verset est important. Jamais sa vie durant, son père ne l'avait peiné en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Jamais son père ne l'avait peiné. Ah là, c'est encore un défaut de David, que la Bible relève, sans commentaire, mais elle le relève. En outre, il était très beau, il était né après Absalom. Alors, il eut un entretien avec Joab et avec Abiathar le prêtre. Ceux-ci donnèrent leur appui à Adonias. Donc, voilà que Joab change de camp, Abiathar le prêtre aussi. Mais Tsadok le prêtre, Benaïa fils de Jojada, Nathan le prophète, Shimei, c'est pas le même que la semaine dernière, et les vaillants hommes de David ne se rallièrent pas à Adonias. Alors Adonias sacrifie du petit bétail, du gros bétail, etc. Il invite tous ses frères, les fils du roi et tous les hommes de Juda qui étaient au service du roi, mais il n'invite pas Nathan, évidemment, le prophète, ni Benaïa, ni les vaillants hommes, ni surtout Salomon son frère, parce que il savait que le prophète avait dit que c'était Salomon qui succéderait à David. Alors là, c'est Nathan qui va rentrer en scène, parce que quand il voit ça, il est au courant de ça, il dit « Oh là là, mais c'est pas du tout ce que Dieu a demandé ». Donc il va voir la maman de Salomon, la fameuse Bathsheba, et il lui dit « Écoute, va voir le roi, donc je résume, va voir le roi et demande-lui ce qui se passe, est-ce qu'il est au courant ?» Et on va juste lire un tout petit bout. Va, entre chez le roi, tu lui diras. Donc c'est 1, 12, 13. Va, entre chez le roi, tu lui diras, oh, roi, mon seigneur, ne m'as-tu pas toi-même juré à moi, ta servante? C'est Salomon, ton fils, qui deviendra roi après moi. C'est lui qui s'assiera sur mon trône. Pourquoi donc est-ce qu'Adonias est devenu roi? Pendant que tu seras là à parler avec le roi, j'entrerai moi-même. Et voilà, après lui, il vient. Et pareil, il fait le même discours à David, au roi mon seigneur, c'est donc toi qui as dit Adonias deviendra roi après moi? C'est lui qui aujourd'hui a sacrifié des taureaux, des bêtes grasses, du petit bétail. Il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée, Abiathar le prêtre. Ils mangent et boivent et ils disent vive le roi Adonias. Mais il n'a invité ni moi, ni Tsadok le prêtre, ni Benaïa, ni Salomon ton serviteur. Est-ce bien toi, au roi, qui l'a voulu ainsi? Ben oui, le problème c'est que comme Salomon n'avait rien dit sur sa succession, bah, la succession, elle se faisait un petit peu automatiquement avec ceux qui en avaient envie. Pourquoi ne m'as-tu pas fait savoir à moi qui suis ton serviteur qui s'assiera sur ton trône après toi? Le roi David fait appeler Bethsabée et là, il dit, il ose enfin dire, par la vie du Seigneur qui m'a libéré de toute détresse, ce que j'ai juré par le Seigneur, le Dieu d'Israël, en disant, c'est Salomon ton fils qui deviendra roi après moi, c'est lui qui s'assiera sur mon trône à ma place, je le ferai en ce jour. Bethsabée s'inclina, et voilà qu'on fait circuler Salomon sur la mule du roi, ce qui était un signe fort, et on le proclame roi. Alors, on va terminer cet épisode par 1 Chronique, chapitres 28 et 29. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire, mais ce n'est pas grave, vous pourrez finir chez vous. Mais je pense que, plutôt que des paroles... Si belles soient-elles mes paroles, je crois qu'il faut mieux terminer par 1 Chronique, chapitres 28 et 29. Voilà. Donc Salomon va prendre la suite. 1 Chronique, chapitre 28. Voilà. Voilà. David rassembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des classes qui étaient au service du roi, les chefs de mille et les chefs de sang, ceux qui étaient responsables de tous les biens et les troupeaux du roi et de ses fils, avec les vaillants guerriers. Le roi David se leva et dit, « Mes frères, mon peuple, écoutez-moi. J'avais à cœur de bâtir une maison, un lieu de repos pour le coffre de l'Alliance du Seigneur, le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison. » Ça résume tout ce qu'on a dit. « Pour mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as répandu du sang. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, m'a choisi parmi toute ma famille afin que je sois roi d'Israël pour toujours. » Il a choisi Juda, il a choisi ma famille. Parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu investir de la royauté. Il insiste que c'est Dieu, parce que je pense que par moments, il devait être un peu comme Jérémie et dire « Mais pourquoi tu m'as appelé moi ?» De tous mes fils, car le Seigneur m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume du Seigneur. Il m'a dit « C'est ton fils Salomon qui bâtira ma maison et mes cours, car je l'ai choisi pour fils et moi je serai pour lui un père. J'affirmerai pour toujours son règne, s'il s'attache. » Vous voyez, dans la Bible, il y a aussi des promesses conditionnelles. « S'il s'attache à mettre en pratique mes commandements et mes règles. » Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Maintenant, sous les yeux de tout Israël, de l'Assemblée du Seigneur, en présence de notre Dieu, observez scrupuleusement. Donc là, c'est un peu le testament de David, avant sa mort. Observez scrupuleusement tous les commandements du Seigneur votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous les laissiez comme patrimoine à vos fils. Oui, il y avait toujours le sentiment de transmettre aux fils. D'autant plus quand on mourait à 35-40 ans, hein, il fallait se dépêcher de transmettre aux enfants. Après vous, pour toujours. Et toi, Salomon, mon fils, première chose qu'il dit à son fils, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Ça, c'est le plus précieux. Sers-le d'un cœur entier. Eh oui, que ton âme y prenne plaisir. Voyez, servir Dieu, il faut que ce soit aussi un plaisir. Alors, par moments, ça semble lourd, hein, quand c'est certains choix. Ah, et pourtant, il dit que ton âme y prenne plaisir. Et vous savez, quand on prie chez soi et qu'on jeûne, comme on a fait cette semaine, et qu'on cherche la face de Dieu, il y a des moments où on sent la présence de Dieu, on y prend vraiment plaisir. Mais il faut être honnête, hein, c'est pas très souvent. Souvent, on le fait par devoir, à moins qu'il n'y ait que moi. Mais c'est vrai, et Dieu demande qu'on y prenne plaisir. Car le Seigneur sonde tous les cœurs, il discerne toute forme de pensée. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu l'abandonnes, il te rejettera jamais. Le fait est qu'il ne s'impose pas. Hein. Donc, voilà. Regarde, maintenant le Seigneur t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui soit un sanctuaire. Et voilà ce qu'il lui dit, sois fort et agis. C'est solennel, hein, la transmission. Et puis, David va donner à Salomon les plans du temple. On ne va pas parler de ça, c'est tout un tas de détails. Et puis au chapitre 29, il dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, les autres, ils s'étaient choisis eux-mêmes, est jeune et délicat. » Ah, peut-être aussi, c'est pour ça qu'il hésitait. Hein. Peut-être qu'il était un peu fragile, Salomon, qui sait. Si jeune, on pense qu'il avait à peine 20 ans, là. « Le seul que Dieu ait choisi est jeune et délicat. Et l'ouvrage est considérable. » Car ce château n'est pas pour un être humain, mais pour le Seigneur Dieu. C'est considérable parce que c'est pour Dieu. Et donc, il est un peu inquiet quand même, hein, David. De toute ma force, j'ai préparé pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent, etc. Et il fait la liste de tout ce qu'il a préparé. Parce que avant de transmettre, David avait préparé. Il avait préparé depuis des années tout ce qu'il pouvait stocker pour que son fils puisse construire ce fameux temple. Et puis la prière de David pour terminer. David bénit le Seigneur en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu depuis toujours et pour toujours, Seigneur Dieu d'Israël, notre Père. » Vous voyez, la notion de Père était déjà là. Parfois on dit « Ah, dans l'Ancien Testament. » Non, non, elle était déjà là, la notion de Père. « À toi, Seigneur, la grandeur, la puissance, la splendeur, la majesté et l'éclat. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Seigneur, le règne. À toi de t'élever souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi. Vous vous souvenez quand Dieu avait parlé à David, il lui avait dit, c'est moi qui, c'est moi qui, c'est moi qui. Et là, il reprend, c'est toi, c'est toi. À toi, Seigneur, le règne. À toi de t'élever souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et non pas dans l'armée, le recensement. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir de rendre grand et fort. Sa prière. Maintenant, nous te célébrons et nous louons ton nom splendide. Qui suis-je donc et qui est mon peuple pour que nous soyons capables de faire de pareilles offrandes volontaires? Il y en a eu énormément, hein, pour le temple. Tout vient de toi et c'est de ta main que vient ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi des immigrés et des résidents temporaires. Il sait qu'il va mourir bientôt, et il a bien la notion que on est temporaire. Hein. Comme tous nos pères, nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a pas d'espérance. Seigneur notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette abondance que nous avons préparée afin de bâtir une maison pour toi, pour ton nom sacré. Tout t'appartient. Je sais que tu sondes le cœur, tu agrées la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit, et je vois maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici te faire des offrandes volontaires. Tout le peuple a fait des offrandes. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, garde pour toujours cette forme de pensée dans le cœur de ton peuple. Quelle forme de pensée? La droiture, servir Dieu d'un cœur non partagé. Cette forme de pensée, générosité aussi, hein, dans le cœur de ton peuple et affermis son cœur pour toi. Affermis son cœur pour toi. Il sait que le problème, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Donne à Salomon, mon fils, un cœur entier. Voyez encore, sa prière pour son fils, c'est pas l'argent, la gloire, etc. C'est donne-lui un cœur entier pour qu'il observe tes commandements, tes préceptes et tes prescriptions, qu'il les mette tous en pratique et qu'il bâtisse. Alors, je ne sais pas pourquoi il dit ce château dans ma version, pour lequel j'ai fait des préparatifs. Et puis, il va dire à toute l'assemblée, bénissez le Seigneur votre Dieu, je vous prie, Alors toute l'assemblée bénit le Seigneur, le Dieu de ses pères. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur et devant le roi. Ils offrirent des holocaustes, etc. Salomon, alors verset 23, s'assit sur le trône du Seigneur pour être roi à la place de David, son père. Il prospéra et tout Israël l'écouta. Tous les princes, les guerriers et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. Le Seigneur rendit Salomon grand, il l'éleva aux yeux de tout Israël. Il rendit son règne plus éclatant que celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Et c'était le cœur de David, il le dit aussi à un autre endroit, que le règne de Salomon soit plus grand. Et ce que j'aime dans ce règne, c'est vraiment ce qui nous a gênés, nous les lecteurs du XXIe siècle, c'est toutes ces guerres, tout ce sang versé, et même Dieu le reconnaît, il dit « Oh là là, toi tu as fait tellement de guerres, tu ne vas pas bâtir ma maison ». Mais Salomon va être l'homme de paix. Shalom. Oh, ce n'est pas que la paix, mais il y a des versions qui l'appellent le pacifique. David s'est battu toute sa vie. Il a eu toutes sortes d'oppositions dehors, dedans, la famille, les trahisons, etc. Il s'est battu. Là, il transmet à quelqu'un qui va vivre dans la paix, qui va donner la paix autour de lui, qui va être un facteur de paix, tout au moins au début de sa carrière. Et je crois que c'est la prière d'ailleurs de nous tous, hein, que quand on transmet, tous les pasteurs en ce moment, tous nos collègues qui transmettent, c'est la prière que ceux qui succèdent soient des gens qui amènent la paix, qui soient des facteurs de paix. Et c'est notre prière à tous, que le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, nous te remettons cette histoire de David que j'ai essayé de rendre le plus vivant possible, mais Seigneur, que ta parole, par ton esprit, touche nos cœurs à tous. Et Seigneur, c'est notre prière, Seigneur, que notre pays vive dans la paix. Et ce n'est pas le cas en ce moment, que nos nations vivent dans la paix. On aspire tous à cette paix, que nos cœurs soient en paix, que nos familles soient en paix, et que notre Église aussi soit dans la paix. Seigneur, que vraiment ton nom soit glorifié. Et que c'est vrai que il y a toujours des guerres, partout il y a des humains. Mais Seigneur, tu es Dieu et tu as permis que ton peuple d'Israël connaisse ce merveilleux temps de paix avec le début du règne de Salomon. Et merci Seigneur pour cette prière de David que nous faisons nôtre. Et que vraiment, oui, ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Amen.